Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
Bonjour, je suis Baymax, votre assistant médical personnalisé. J'ai reçu une requête de soins médicaux quand vous avez dit... Aïe!
Un infirmier robotique.
Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de douleur?
Douleur physique ou émotionnelle?
Je vais maintenant vous scanner. Scan terminé. Vous souffrez d'une légère abrasion de l'épiderme au niveau de l'avant-bras. Je suggère une vaporisation de produits antibactériens.
Wow. Que contient précisément ce produit?
Le principe actif du produit est la bacitracine.
C'est pas de bol, tu vois, je suis allergique à ça.
Vous n'êtes pas allergique à la bacitracine. Vous êtes atteint d'une allergie bénigne à l'arachide.
Pas mal. Tu as dû faire une programmation de fou sur ce truc, hein?
Son programme contient plus de 10 000 procédures médicales. Ce processeur est ce qui fait de Baymax, Baymax.
L'IA ou l'intelligence artificielle. Si comme moi, vous voyez de quoi ça parle, mais que dès qu'il y a trop de technologie, vous fuyez, vous avez une vague idée du sujet du jour. Mais attendez, ne partez pas. Dans cette émission, avec Diala Nosier, notre médecin tout-terrain, nous avons rencontré le docteur Joris Galland. Et vous allez voir, en plus d'être le Dr House de Bourg-en-Bresse, il est passionné par les robots et les nouvelles technologies. Et il pourrait bien avoir des idées pour la médecine de demain. Joris Galland, vous êtes médecin interniste, bonjour. J'ai vu passer un article de presse dans lequel on dit que vous seriez le Dr House du centre hospitalier, c'est ça?
Alors tout à fait, les gens ne savent pas ce que c'est la médecine interne. Alors les médecins généralistes savent très bien ce que c'est la médecine interne. Ils ont tendance à adresser les patients qui sont en errance diagnostique ou alors qui ont des maux inexpliqués. Donc il n'y a pas de souci pour expliquer aux médecins généralistes, je vois aucun problème. Par contre, pour expliquer aux patients ce qu'est un médecin interniste, je leur dis, vous voyez qui est Dr House? Ils me disent oui. Bon, bah écoutez, je fais pareil. En gros, je m'occupe des diagnostics compliqués.
Si on reste sur cette comparaison, souvent dans les épisodes du Dr House, c'est grâce à la conversation, l'échange avec les autres médecins, toutes spécialités confondues, que le diagnostic se réalise. Ça se passe comme ça dans la réalité ?
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai tendance à dire que en médecine interne, on est en fait c'est un spécialiste d'un peu tous les organes. Donc on est bon dans tous les organes, mais on est excellent dans aucun organe. Donc si ça devient un peu trop compliqué, on est obligé de discuter avec le cardiologue, le pneumologue, le néphrologue. Et du coup, parfois les diagnostics compliqués se font justement avec cette coordination de plusieurs spécialistes. Et c'est ça qui est super intéressant en médecine interne.
Moi, j'avais envie de vous demander comment vous étiez arrivé à cette envie dans votre carrière de chercher plus loin que ce qu'un médecin généraliste, par exemple, cherche pour nos patients.
Alors justement, je crois que j'ai trop regardé Dr House et c'est en ça que j'aime beaucoup la médecine interne, c'est cet aspect déjà un peu pluridisciplinaire parce qu'on touche à tous les organes. Après, c'est vrai que par rapport à un médecin généraliste, c'est plus une spécialité qui est hospitalière et j'avais envie de garder ce contact hospitalier où on a une activité qui est un peu plus diversifiée avec l'hospitalisation, avec justement les consultations. Et pas que les consultations en médecine générale. Et puis, le côté intéressant de se creuser les méninges tous les jours, c'est vraiment ce qui me passionne.
Vous êtes aussi un passionné et un expert en intelligence artificielle. Du coup, comment l'intelligence artificielle pourrait intervenir dans votre spécialité ?
Alors, l'intelligence artificielle, il y a pas mal de gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, mais ils savent pas ce que c'est. Alors, c'est pas un robot ni une machine qui va remplacer le médecin. C'est plus, moi j'appelle ça une prothèse cérébrale pour le médecin. C'est-à-dire que en médecine, on nous demande de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de tâches, et les connaissances en médecine évoluent tous les jours. Donc, le cerveau humain est pas capable de retenir tout ce qui existe en médecine. En fait, l'intelligence artificielle, c'est créer des programmes informatiques qui vont aider le médecin dans certaines tâches, alors soit pour faire des diagnostics plus rapidement, ou alors dans d'autres domaines, diminuer des tâches administratives pour nous aider, nous débloquer du temps.
Vous avez écrit un papier qui nous emmène en 2031. La patiente imaginée ne voit jamais son médecin, ni dans le diagnostic, ni dans la prise en charge de sa maladie. C'est ça la médecine du futur ?
Alors c'était un peu un article type provocateur, mais c'est justement pour pas qu'il y ait ce genre de dérive. L'idée, c'est de montrer que l'intelligence artificielle est une aide aux médecins et que justement le médecin ne devienne pas un peu l'infirmière de l'intelligence artificielle. Mais déjà en 2022, on a certains patients qui ont tendance à ne plus consulter des médecins, aller voir sur Internet. Donc il faut éviter les dérives, et c'est en ce sens que cet article était 100% provocateur. J'espère pas qu'en 2032 on aura des patients qui ne verront plus le médecin, parce que la médecine, ça reste avant tout à du relationnel, chose que la machine ne fait pas, et également l'examen clinique. Donc il faut vraiment qu'on examine les patients.
Et du coup, je vais rebondir vraiment sur ce que vous venez de dire, et je vous remercie de nous avoir proposé ce sujet, parce que pour moi, ça a été une formidable base de réflexion philosophique sur ce qu'est la médecine et notre métier de médecin. J'espère, sans me tromper, pouvoir dire que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les médecins, puisque selon moi, la médecine, c'est un peu notre art, et que la relation interhumaine du médecin avec son patient est thérapeutique, que je l'espère humaine, respectueuse, vraie, sincère, et que la robotique est étrangère à l'empathie. Pour moi, l'intelligence artificielle ne doit pas, c'est ce que vous venez de dire, dépasser sa place d'outil de performance, de collaborateur, être au service du médecin, et jamais l'inverse. Puisque des algorithmes peuvent faire un diagnostic, prendre une bonne décision logistique ou même thérapeutique, un bon médecin ne semble du coup pas être celui qui sait tout, puisqu'un robot aussi a de la mémoire, mais celui qui accompagne, qui soigne, qui écoute dans le respect et dans l'échange. Donc l'empathie n'est pas prête de se faire remplacer par un ordinateur apparemment, et c'est rassurant. Vous qui êtes expert sur le sujet, du coup, qu'est-ce que vous pensez plus largement de la place, des risques et des limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine ?
Alors, en fait, en matière d'intelligence artificielle, actuellement, on parle d'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire que chaque intelligence artificielle est un seul algorithme, et du coup, il est monotâche. Donc, en matière de médecine, on n'est plus sur des tâches de prédiction de maladies, d'évolution de certaines maladies, de diagnostic, de prédiction de traitement, mais en aucun cas on est sur l'empathie du médecin ou vraiment le côté relationnel. Alors après, on parle de l'intelligence artificielle forte, ça c'est plutôt un courant philosophique, et potentiellement une évolution des technologies, où dans ce cas on sera dans Star Wars avec R2-D2 ou C-3PO qui viendront nous parler comme un vrai humain. Actuellement, ces technologies n'existent pas, et on ne sait pas si elles existeront un jour. Donc si on reste sur une intelligence artificielle faible, je suis 100% d'accord sur le fait que elles resteront l'outil complémentaire des médecins, la prothèse cérébrale, et en aucun cas elles nous remplaceront sur le terme du relationnel. Par contre, pour les intelligences artificielles fortes, il faudra bien sûr qu'il y ait un cadre juridique, parce que je pense qu'on est 100% des humains, on est 100% d'accord pour dire qu'on n'a pas envie d'être soigné par un robot, et qu'on n'a pas envie de traiter, je ne sais pas, une dépression, ou parler à un robot pour se faire soigner.
Par contre, il y a déjà des robots qui font des opérations. Du coup, vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer comment ça fonctionne ?
Ouais, alors c'est des robots qui sont entraînés. Alors ça reste encore du monotage, c'est-à-dire que c'est des robots qui sont entraînés par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc il y a des programmes, par exemple, pour faire ce qu'on appelle appendicectomie, c'est enlever l'appendice quand on a une appendicite. Et dans ce cas-là, c'est juste de la reconnaissance d'image. L'intelligence artificielle, en fait, est nourrie par des données de médecine, et les plus grandes données qui sont générées en médecine, bah, c'est l'imagerie. Donc, que ce soit une radio ou alors une vidéo. Et en fait, ces robots, on leur a montré, donc via leur intelligence artificielle, des milliers d'heures d'opérations. Et du coup, pour des actes chirurgicaux assez simples, comme enlever un appendice ou enlever une vésicule biliaire, ils sont capables de reproduire l'opération.
Dans un de vos articles, vous parlez aussi de la partie où on recoue le patient, et que du coup, ça pourrait éviter, ça pourrait faire gagner du temps aux médecins. C'est jouable, ça ?
Ouais, justement, c'est un peu l'objectif, c'est utiliser le robot pour que le médecin ou le chirurgien puisse avoir d'autres activités, justement augmenter le temps de relationnel avec le patient et diminuer le côté technique. Et en ce sens, en fait, c'est assez simple. Il y a des robots, même sur Bourg-en-Bresse, qui sont utilisés par le chirurgien, et certaines parties de l'opération peuvent être automatisées sur le robot.
Pour pallier le manque de médecins, là, on a aussi le développement des télécabines. Est-ce que ça, c'est de l'intelligence artificielle ?
Alors, c'est pas de stricto sensu de l'intelligence artificielle, c'est de la télémédecine. Après, la télémédecine génère des données, et du coup, on peut utiliser ces données pour nourrir des intelligences artificielles. Donc, par exemple, en Chine, il y a ce système de télécabine où les patients peuvent décider soit d'être vus en consultation par un humain, soit par une intelligence artificielle. Donc il y a aussi des mentalités qui sont différentes entre les pays, où on voit que par exemple en Chine, il y avait une étude qui était parue où 50% des 20 à 30 ans étaient d'accord pour être suivis par un robot plutôt que par un médecin généraliste, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Après, donc le système de télécabine en France, c'est vraiment 100% de la consultation avec un humain derrière.
Joris Galland, merci. Vous êtes médecin interniste et spécialiste d'intelligence artificielle.
Merci beaucoup de l'invitation et avec grand plaisir pour en parler plus longuement.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.